Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface et sur la boutique en ligne lescapricesdethérèse.com. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, au sommaire de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé. Dans un instant, notre premier coup de cœur ciné de cette semaine avec Les Rois de la Piste, le nouveau film de Thierry Cliffa qui va ouvrir cette émission avec nous dans un instant. Nos coups de cœur télé consacrés à Tout le monde ment 2, ça sera donc mercredi à 21h10 sur France 2. Hakim Isker, le réalisateur, sera accompagné de Julien Boisselier pour en parler. Et puis on parlera également de Mercato, la nouvelle série de TF1 avec Anthony L'Ancré, on aura Jérémy Marcus, le créateur. Manon Azem, l'héroïne de cette nouvelle série, sera également avec nous. Et puis Flavie Péan viendra nous rejoindre à l'occasion de la diffusion du 3e opus de Simon Coleman. Ça sera vendredi soir également sur France 2. Et puis en fin d'émission, nous aurons le plaisir de recevoir Frédéric Lavigne, le directeur artistique de Sérimania, pour nous dévoiler tout le programme de cette belle édition qui commencera vendredi du côté de Lille. Et en exclusivité podcast, nous aurons le plaisir de recevoir aujourd'hui également Léa Todorov, qui est la réalisatrice de La Nouvelle Femme consacrée à la vie de Maria Montessori. On va donc terminer également cette émission avec elle. Vous l'avez compris, on va encore pas s'ennuyer aujourd'hui. Tant chut, on écoute la télé, alors c'est parti.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné cette semaine s'appelle Les Rois de la Piste. Ça sortira au cinéma mercredi. Et on a le réalisateur aujourd'hui avec nous, Thierry Cliffa, pour en parler. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Merci de se retrouver et d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir de te revoir, franchement. Et ce film est tellement plein de surprises, eh bien qu'on va pouvoir justement en dire, mais sans trop en dire, mais on va vous donner envie, j'en suis sûr, en tout cas, d'aller le voir. Comment est venue cette idée? Raconte-nous déjà pour commencer.
D'abord, j'avais envie de faire une comédie. On sortait de cette période un peu sinistre, voilà, du Covid. Et j'avais envie de quelque chose de joyeux, d'heureux, quelque chose qui soit un peu dans l'esprit des comédies policières que j'aime beaucoup, comme Family Business de Sidney Lumet ou Charade ou des choses comme ça, où il y a à la fois de la comédie, de l'enquête policière et à la fois de la légèreté, de la profondeur, qu'on puisse rire et être ému à travers la même histoire.
Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est que dans l'écriture, il y a des rebondissements et vraiment des choses inattendues sans arrêt. Ça, c'est vraiment une volonté justement de sans arrêt emmener peut-être sur des pistes, roi de la piste, d'emmener sur des pistes justement le spectateur pour qu'il soit tout le temps surpris. Ça, c'est chouette parce que c'est rare dans un film, ça.
Bah, ce qu'on a essayé, c'est en tout cas que ça soit le moins programmatique possible. Et c'est vrai que on essayait à ce que l'enquête ne prenne pas le pas sur la comédie, que la comédie ne prenne pas le pas sur l'enquête. Donc il fallait vraiment, on était un peu en équilibre. Et puis je crois qu'avec Benoît Graffin, avec qui j'ai écrit le film, on a vraiment laissé parler nos névroses, essayé d'avoir un minimum de dérision par rapport à elle. Et je pense qu'on s'est amusé. C'était compliqué, c'est toujours compliqué à écrire, mais c'était heureux d'écrire sur ces personnages-là, sur cette histoire-là, sur cette famille-là, sur ces rapports filiaux, ces rapports de transmission. Tout ça était, en fait, c'était joyeux à écrire, même si c'était pas facile, mais c'était quelque chose. Le plaisir, je voulais que le plaisir qu'on avait à faire naître cette histoire soit communicatif. Et bon, j'ai l'impression que ça l'est, donc tant mieux.
on y suit le clan Zimmermann. Qui est incarné par une matriarche absolument fabuleuse, qui est Fanny Ardant, qui essaye de tenir sa famille de main de maître un peu à la Manhattan, hein. Et avec ses deux fils et son petit-fils. Et puis à un moment donné, il y a un événement dès le début du film qui tourne un peu mal et son petit-fils part en prison. Et c'est à la sortie de prison que justement, voilà, il va se passer plein de choses à cause de justement ce qu'a fait le petit-fils et pourquoi il a été en prison. Et on va découvrir justement, eh bien, dans le film, tout plein de ficelles qui vont nous emmener soit à la réunification, soit à la dislocation de cette famille. Et c'est ça tout l'enjeu aussi, c'est cette famille et les liens qui les unissent.
Oui, c'est exactement ça, c'est à la fois... Enfin,
j'en ai pas trop dit.
Non, c'est parfait. Non, c'est parfait. Non, mais c'est vrai que je suis assez scrupuleux par rapport à ce qu'on peut raconter de l'histoire, parce que je pense qu'un des plaisirs de ce film, c'est les surprises. Voilà, il y a des...
Il y a énormément de surprises.
Voilà. En fait, ce qui comptait, c'était vraiment de parler de la transmission, à la fois famille, je vous aime, famille, je vous hais, et de la façon dont on en revient toujours à ce qui est à la fois de plus évident et de plus mystérieux, c'est-à-dire les liens qui nous unissent aux nôtres, c'est-à-dire qu'on avec tout ce que ça peut avoir de plus merveilleux, de ce que ça peut avoir aussi parfois de nocif, et la part d'émancipation que chacun, en tout cas que ses fils et son petit-fils ont besoin de faire vis-à-vis effectivement de cette femme puissante, de cette mère qui aimerait les garder sous son giron le plus longtemps possible. C'est-à-dire qu'ils veulent à la fois s'émanciper d'elle et en même temps tout les ramène à elle.
Ben oui. Alors, ça sera peut-être une famille disloquée à la fin ou réunifiée, c'est ce qu'on verra en tout cas. Pour ça, il faudra aller voir le film. L'incarnation des deux fils, Nicolas Duvauchel et Mathieu Kassovitz, ils sont géniaux tous les deux.
Oui, ils sont formidables, ils étaient...
Nicolas, c'est pas le premier coup quand même avec lui,
non,
pour toi.
Nicolas, c'est le troisième film, plus une pièce de théâtre qu'on avait fait ensemble avec Fanny, justement, une pièce de Duras, des journées entières dans les arbres, où ils jouaient déjà une mère et un fils. C'est des acteurs vraiment formidables. Donc Nicolas, oui, on se retrouve. Mathieu, je le connaissais pas, enfin, on s'était croisé, mais je n'avais jamais travaillé avec lui. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance qu'ils acceptent l'un et l'autre ces personnages, parce que c'est des personnages dans lesquels on n'a pas du tout l'habitude de les voir, ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que le potentiel, par exemple, comique de Mathieu, c'est pas quelque chose qui a nécessairement été exploité, et que l'un comme l'autre ont adoré faire ça, en fait. Et ils ont pris beaucoup de plaisir. On était vraiment... Nicolas, notamment, par rapport à son personnage, a vraiment fait tout un travail préparatoire, ce qu'il ne fait pas d'habitude, enfin je veux dire ce qui passe sa façon de travailler. Mais j'ai adoré travailler avec eux, je les ai adorés pour tout ce qu'ils m'ont amené, la façon dont ils m'ont notamment Mathieu.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Il faut toujours être sur le qui-vive avec lui, il faut toujours être très présent, et il est très attentif à ce qu'on peut lui dire à partir du moment où il a confiance et où il sait que la personne qui est en face de lui porte son film. Il est vraiment un allié formidable. Et moi, ce qui m'intéresse, mais c'est comme pour tous les acteurs dans le film, c'est-à-dire c'est de les décaler un peu de ce qu'on les a vu faire, et notamment par rapport à Fanny, avec qui ou Nicolas, avec qui j'avais déjà beaucoup travaillé, c'est surtout de ne pas leur reproposer la même chose. Voilà, mais c'est pareil aussi avec Laetitia Deutsch,
un rôle très important, ouais, qui amène une luminosité naturelle, ouais, et qui va se retrouver pris entre deux feux, entre la mère et le fils, de façon assez joyeuse par moment.
Oui, elle est très Laetitia, elle est souvent identifiée par rapport à un cinéma d'auteur. Enfin, on l'a beaucoup vu dans un genre de personnage, et là, je voulais notre modèle, c'était Faye Dunaway dans l'affaire Thomas Crown, et de façon très très prétentieuse, ce que je veux dire, mais en tout cas, voilà, c'était même au niveau de l'allure, au niveau de les bottes, le chapeau, des choses comme ça. Et c'était un personnage pour le coup qu'elle avait jamais fait, qu'elle s'est beaucoup amusée à composer, on s'est beaucoup amusé à le composer ensemble.
Ça m'étonne pas. Bon, en tout cas, Les Rois de la Piste, ça sort mercredi au cinéma. On ne rate pas, c'est notre coup de cœur ciné cette semaine. Merci Thierry, en tout cas, d'avoir passé ces quelques minutes avec vous. Si vous avez envie, parce que c'est aussi ça pour ça qu'on aime le cinéma, si vous avez envie d'être surpris, si vous avez envie de passer un bon moment, en tout cas, allez voir ce film mercredi dans les salles. Merci à toi.
Merci beaucoup, et mercredi dans les salles alors.
Exactement, et tout de suite la bande annonce, c'est parti.
Jérémy s'est volatilisé.
Fallait me le dire que vous alliez braquer un tableau à 5 plaques. En habitude, vous faites les manteaux dans les bar mitzvahs. Je vous présente Céleste Siméon, notre meilleure détective.
Je vous en ai dit, Norman. C'est ma mère. Je croyais qu'elle était morte.
Eh ben, moi aussi.
Jérémy, ce plan créé dans le Cotentin.
S'il se cache dans ce trou perdu, c'est parce qu'il a encore tableau.
T'es sur ton tuyau parce que c'est cafard ici, hein.
C'est le moment de faire entrer une pièce rapportée dans la famille.
C'est pas une pièce rapportée, c'est ma nouvelle copine.
J'ai vu mon frère.
Sam, s'il te plaît.
Non mais qu'est-ce que vous faites ici? Là, c'est quoi ce tableau?
Quoi? Ne me dis pas que tu lui as parlé du tableau.
Je dis ce que je veux. J'ai l'âge, je suis grand.
Mais on la connaît pas, cette fille. Si ça se trouve, c'est un flic.
T'es jalouse parce que t'as pas d'autre plan? T'as rien d'autre?
J'ai pas de plan, mais j'ai 1000 plans à la minute. Qu'est-ce que tu crois?
Mais c'est quoi, là? C'est Matt Dalton et son fils Joe?
Ils ont l'air de bien s'entendre.
Attention!
Elle est coincée. Là, vous pouvez me faire confiance.
Je vais aller jusqu'au bout.
Au bout de quoi, Sam? De quoi tu parles?
C'est pas un bon jeu pour tirer sur quelqu'un.
Pour moi, il nous enfume. Omar.
Allez, surtout, vous ne bougez pas. Julien Boisselier, Hakim Isker, on va avoir Manon Azem qui va nous rejoindre et puis plein d'autres mondes encore. Et puis le directeur artistique de Sérimania, Frédéric Lavigne. Alors surtout, ne bougez pas. À tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Je m'appelle Julien, et toi, pas grand chose à dire. Je suis ce gars que tu vois pas venir, qu'aime rire et pleurer, qu'aime pleurer de rire, comme tout le monde. Ma vie, j'aimerais la repeindre, mais je ne suis pas à plaindre. Là-bas dans mon coin, y a de l'amour à revendre. Bien sûr j'ai des chagrins, bien sûr j'ai la peau tendre, comme tout le monde. La nuit, je regarde les étoiles. Ça me fait peur, car je sais que les étoiles, ça brille et puis ça meurt, ça file et ça se perd. Moi je vis pour ce qui fait chavirer les cœurs. Comme tout le monde, comme tout le monde, comme tout le monde. Un peu de lumière, un peu. J'étais ce gars timide qui regardait ailleurs, qui rêvait pas d'île, mais de noyer ses peurs. J'étais fragile, les yeux un peu menteurs, comme tout le monde. La nuit, je partais dans mes rêves pendant des heures. Je me faisais de grands films où c'était moi l'acteur, où c'est moi la vedette. Je me réveillais en sueur. Comme tout le monde, comme tout le monde. Un peu de lumière, un peu d'ombre, comme tout le monde. Oui, comme tout le monde, comme tout le monde. Un peu de lumière, un peu d'ombre. Tu me reconnais pas quand je crie, quand je pleure. Si dans mes yeux tu vois plus qu'un oiseau de malheur qui veut voler trop, ce regard est trop grand. Rappelle-moi que je suis comme tout le monde, comme tout le monde. Oui, comme tout le monde. Un peu de lumière, un peu d'ombre.
Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à Tout le monde ment, deuxième volume pour cette collection réalisée de main de maître par Hakim Isker qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Hakim.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On avait eu l'occasion de se rencontrer pour l'enfant de personne avec l'histoire de Lies Loufoque qui nous avait profondément marqué et qui avait marqué l'histoire du Festival de la Fiction Télé de La Rochelle. Et donc, tu reviens avec ce deuxième opus de Tout le monde ment, avec un casting incroyable et une histoire qui fait résonance assez terrible à tout ce qui se passe justement en ce moment, hein, Kim.
Oui, tout à fait. Ouais.
Qu'est-ce qu'on peut dire aux auditeurs pour commencer dans l'histoire de départ? Comment on peut planter un peu le décor pour toi, là?
Ah ben écoute, que dire aux auditeurs pour planter le décor, comme tu dis, parler de Tout le monde non, c'est vrai que le sujet de ce nouvel opus l'emporte. Il n'y a pas débat là-dessus, puisque on traite d'un sujet qui fait beaucoup d'écho, des résonances aujourd'hui, qui est des violences sexuelles, là en l'occurrence dans le milieu du cinéma. Mais avant tout, il y a Tout le monde ment, et Tout le monde ment, c'est pour moi... C'est un personnage extrêmement empathique, touchant, incarné avec toujours autant de délicatesse, de générosité et d'énergie par Vincent Elbaz. C'est un personnage qui lui va comme un gant.
Oui, c'est donc, vrai.
Moi, au tout départ, je viens faire cet opus 2. Avant même de lire le scénario, je suis contacté et l'idée même de retravailler avec Vincent, avec qui j'avais déjà travaillé, et de rencontrer ce producteur qui est Marco Cherki, dont j'aimais beaucoup le travail, m'a tout de suite donné envie de revenir. Mais c'est vrai que je voue une grande affection et une admiration aussi pour Vincent Elbaz, qui est un acteur fabuleux et une personne fabuleuse aussi. Pour planter le décor, il y a ce personnage d'ancien flic, libraire, entre guillemets, enfin, en tout cas, il se croit libraire, mais il est surtout l'ami d'un libraire, passionné de littérature et surtout qui réagit avec beaucoup, qui réagit de manière épidermique aux mensonges, aux injustices, quelque chose qui me parlait beaucoup et qui me donnait envie de retrouver Vincent sur ce projet-là. Et puis très vite, en lisant le scénario, il s'est avéré que le sujet exploité dans cet épisode-là, si on peut appeler ça un épisode, le deuxième volet, était extrêmement délicat et c'était pas simple de le nourrir avec énormément de foi et de sincérité, tout en gardant l'énergie de Tout le monde ment, qui reste une comédie policière extrêmement croustillante.
Mais oui. Et Julien Boisselier s'est imposé tout de suite, Hakim ?
Julien Boisselier, j'avais travaillé avec lui sur une série, 6x52 minutes, qui s'appelait Vision. Et on avait beaucoup accroché. Et à la rencontre avec Julien, oui, ça a été assez évident dès le départ, puisque il fait partie de ces acteurs qui n'ont pas peur d'endosser des personnages pour dénoncer certaines choses et qui sont entiers.
On va en parler avec lui dans un instant, parce que moi j'admire beaucoup cet acteur justement pour ses choix, pour ce qu'il défend. Voilà, je vais lui dire dans un instant justement quand il va être en ligne avec nous. Mettre en scène la plume d'Olivier Norek, ça c'est aussi exceptionnel, parce que moi j'ai ses livres sous le nez là, juste à côté de moi. Je pense à Territoire, je pense à Impact, à Surface, à Entre deux mondes. Quand on met en scène une plume comme ça, ça met un petit coup de pression ou pas?
Franchement, vraiment, c'est pas prétentieux, mais non, ça met pas de pression, en fait. Moi, ce qui compte pour moi, tu sais, je me rappelle d'une chose, du premier film que j'ai fait, que j'ai réalisé. J'étais assez jeune et on m'a posé la question, on me dit, est-ce que t'as peur? T'as peur? T'as pas le trac de faire ce film? Et en fait, je disais, non, on peut pas avoir peur de faire quelque chose dont on rêve. Et là, en l'occurrence, mettre en scène les textes d'Olivier m'a pas fait plus peur que ça. La seule chose que je voulais, c'était le rencontrer. La rencontre s'est faite rapidement et ça a fité tout de suite. Donc, à partir du moment où moi, je peux apporter ma pierre à l'édifice et je peux venir, entre guillemets, prolonger le désir d'un auteur et se retrouver ensemble sur la même longueur d'onde et grandir ensemble, c'est fabuleux. Donc, non, pas peur, pas de pression, juste du plaisir.
Et on va préciser que c'est un scénario écrit à quatre mains avec également Nicolas Lebel, hein, que on va citer. Il y a un très très beau casting. Vincent Elbaz, bien sûr, on le disait, Julien Boisselier, Maria Maguey, Joséphine Demeaux, on a Jackie Berroyer, Anne Girouard, Marie-Ange Casta. Enfin, c'est assez dingue.
Oui, il y a un super casting et il y a surtout beaucoup de gens que j'aime beaucoup. Marie-Ange, avec qui j'avais travaillé, qui est une femme qui pouvait, à mon avis, incarner la parole de cette femme qui est la parole des autres femmes. Donc, c'était important. La découverte de Jackie Berroyer, voilà, je m'en voudra pas si je dis que j'étais un fan quand j'étais plus jeune, mais ça, pour le coup, c'était un vrai kiff de le rencontrer. Et puis de la découverte de Maria Maguey, que je connaissais pas dans le travail, et de Joséphine Demeaux aussi. Voilà, plein d'acteurs qui ont été très chouettes. C'est vrai que c'est une belle brochette, c'est un beau casting. Et je crois qu'il fallait un casting comme ça, enfin en tout cas, pour pouvoir parler de ce sujet-là et pouvoir l'incarner.
On va le développer justement ce sujet-là dans un instant avec Julien Boisselier qui nous rejoint dans une poignée de secondes. En attendant, Hakim, on va terminer par tes projets. Tu travailles sur quoi pour les mois à venir? Toi qui as mis en scène, on le disait, Vision il y a quelques mois pour TF1 avec Louane notamment, qui était très réussi. On parlait de l'enfant de personne qui a été primé carrément. Aujourd'hui, quels sont tes beaux projets auxquels on peut s'attendre dans les mois qui arrivent?
Bah écoute, là je termine tout juste un film pour France Télévisions encore, qui retrace le parcours d'une jeune fille qui a eu un enfant trop tôt, issue d'un déni de grossesse et qui vit chez ses parents et qui clash au tout début du film. C'est compliqué de vivre chez ses parents, d'éduquer son enfant en étant encore un petit peu enfant soi-même. Elle se retrouve un petit peu seule et elle n'aura pas d'autre choix que d'accepter de travailler. Et elle fait le choix d'être intégrée, d'être la première femme intégrée dans un département de la propreté de Paris qui s'appelle la fonctionnelle. Dès lors, on va plonger dans ce monde-là qui va nous apprendre des choses, un petit peu plus en tout cas sur l'image des éboueurs, que nous, on pense tout bonnement étant les hommes en vert qui ramassent les poubelles en bas de chez nous. C'est bien plus compliqué que ça, c'est bien plus humain que ça, c'est bien plus intéressant. Et voilà, tous ces sujets de société m'attirent beaucoup, de parler des invisibles est quelque chose qui me plaît beaucoup, pour revenir rapidement sur le film qu'on vient de faire sur tout le moment. Si Julien développe, en tout cas, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais la chose la plus importante, c'est qu'au milieu d'une comédie policière, il fallait donner la bonne parole à ces femmes-là et au discours de ces femmes. Donc du coup, le travail, il a été fait là-dedans, sans jamais abîmer le travail d'Olivier Norek. Et d'ailleurs, pour ton information, Olivier Norek, on a énormément discuté avec ça, puisque comme tu le sais, il est ancien policier, et il a travaillé pendant 4 ou 5 ans à la brigade des violences sexuelles. Donc il y a eu énormément de discussions avec les acteurs, et pour ma part, et la seule chose qui a compté, c'est donner la parole à ces femmes et de quelle manière. Un peu comme il semble l'avoir fait dans L'enfant de personne, où j'ai adopté le point de vue de l'enfant et j'ai essayé de donner la parole à l'enfant. Bah là, c'est pareil, j'essaie de donner un petit peu la parole aux éboueurs à travers le point de vue de cette jeune femme qui en fait la rencontre.
Eh bien écoute, on va suivre ça avec attention et puis ça sera l'occasion de se rappeler en tout cas. Merci beaucoup Hakim d'avoir été avec nous. On va écouter un petit extrait justement de Tout le monde ment 2, c'est mercredi à 21h10 sur France 2, deuxième opus de cette collection. Et juste après, c'est Julien Boisselier qui nous rejoint. À tout de suite. Merci beaucoup Hakim.
Salut, au revoir.
Il y a 10 jours, une jeune femme a été retrouvée morte chez elle.
Sauf que, il y a toujours un sauf que.
Sauf que, il y a 2 mois, cette même jeune femme a déposé plainte pour agression sexuelle.
Contre qui?
Est-ce que vous connaissez l'acteur Mathieu Le Serre? Me dites pas que vous l'avez jamais vu.
Il est connu, il sent bon. Oh, ok. Putain, mais qu'est-ce qu'il a fait, ce con?
Alors, c'est vous qui m'avez tué?
J'appuie.
Qu'est-ce que vous me voulez, monsieur Werner?
C'est bizarre de porter plainte quand on a une relation consentie. Mmh.
Dans ma série, c'est le moment où les enquêteurs sortent des preuves irréfutables.
Bon, bah, je vais regarder tous les épisodes. Et puis, bah, à partir d'aujourd'hui, vous avez toute mon attention.
Pour lui, toute vérité est bonne à dire. Avec Vincent Elbaz, Tout le monde ment. Mercredi soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv.
Allez, notre coup de cœur télé va s'intéresser à Tout le monde ment 2. Ça sera donc mercredi soir à 21h10 sur France 2. Donc, on va pouvoir découvrir un nouveau numéro de cette collection. Alors après, Hakim Isker, on va continuer avec Julien Boisselier qui nous rejoint. Bonjour Julien.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On peut dire que ce rôle de Mathieu Le Serre tombe à pic, surtout en ce moment, hein, je crois.
Oui, effectivement.
Alors, qu'est-ce qui vous a attiré justement dans ce rôle, Julien? Qu'est-ce qui vous a donné envie de dire oui?
Oh là là, avant toute chose, moi, ce qui me donne envie de dire oui à un projet, c'est souvent un scénario et aussi évidemment un réalisateur. Et j'avais déjà travaillé avec Hakim, on s'était très bien entendu, donc voilà, je savais qu'il aurait un regard assez juste sur cette histoire et que je pouvais lui faire confiance.
Alors, on va y retrouver dans cet opus, en tout cas, l'histoire d'une jeune infirmière qui est retrouvée poignardée dans son appartement. Et donc, la police va enquêter sous les traits de Vincent Werner, incarné par Vincent Elbaz, qui est incroyable. On adore Vincent et ce rôle lui va ravir, en tout cas. Mais la police, elle, va conclure rapidement un cambriolage qui aurait mal tourné. Mais c'est peut-être pas si simple que ça, puisque ce qui va faire ressortir un peu le dossier, c'est que la victime avait porté plainte pour agression sexuelle à l'encontre de votre personnage, Mathieu Le Serre, qui est un célèbre acteur d'une série policière et chouchou du public. Autant dire, quelqu'un, bien sur tout rapport, est totalement intouchable. Donc évidemment, ça fait résonance en ce moment sur ce sujet. Mais l'histoire qui va se délier derrière tout ça est très très complexe en tout cas.
Ah oui, évidemment, ben, c'est là où l'enquête policière intervient. Je voulais revenir aussi effectivement sur Vincent Elbaz. J'avais vraiment envie de croiser sa route. Je trouve que c'est vraiment un comédien exceptionnel. Et il porte un personnage, il amène un ton très particulier à cette série. Finalement, la singularité de cette série, c'est d'attaquer à des sujets assez lourds, assez denses, dramatiquement, de garder un ton comédie, burlesque, décalé. Il est vraiment à la genèse de ce ton. C'est vraiment, il fait une performance assez incroyable, je trouve, dans ce téléfilm.
Oui, mais malgré tout, Julien, enfin moi je salue quand même parce qu'on a eu Julie de Bonnard, on avait parlé de ce film aussi que vous aviez fait pour France 2 tous les deux. Vous acceptez des rôles très difficiles, que c'est une manière peut-être à vous aussi de dénoncer ces comportements inacceptables malgré tout.
Oui, je vous cache pas que c'est assez intéressant quand on a un metteur en scène qui a un point de vue d'essayer de défendre l'indéfendable. Nous, les comédiens, effectivement, on prend les rôles. On n'est pas là pour juger les personnages, c'est les gens après qui reçoivent l'histoire et qui font leur travail. Mais moi, au départ, effectivement, sur ce rôle-là, je savais bien qu'on était dans une actualité assez assez chaude, mais il y avait aussi un désir pour moi de donner un point de réflexion assez intéressant pour le spectateur et d'essayer de faire réfléchir autrement, en ne condamnant pas d'emblée ce personnage, mais en essayant justement de lui donner une crédibilité et aussi de dénoncer peut-être un système injuste.
Plus un système qu'un comportement, là, pour le coup, et parce que c'est tout un système, effectivement, derrière, qu'on voit, d'ailleurs, dans le film.
Ouais. Effectivement, c'est un système qui protège ces hommes de pouvoir, de moins en moins, heureusement, mais en tout cas, ça dénonce aussi ça, oui, bien sûr.
Alors, on va découvrir ce deuxième opus, en tout cas, donc ça sera mercredi à 21h10 sur France 2. On peut espérer, en tout cas, qu'il y ait d'autres numéros de cette collection. Est-ce qu'il y a un moment particulier, une scène particulière qui a été plus difficile pour vous que d'autres?
Oui, je dirais que c'est toujours très compliqué pour moi et pour les acteurs en général, les scènes physiques avec une femme et quand il y a de la brutalité. Voilà, c'était vraiment quelque chose que j'anticipais et qui était vraiment compliqué pour moi. Parce que autant on peut jouer des sentiments, mais là, quand il s'agit de s'impliquer physiquement et d'être dans une violence avec une femme, c'est vraiment quelque chose, on se dit, bon, il va falloir la faire, cette scène, elle est nécessaire pour le film. Mais même avec Hakim, on se réjouissait pas à l'idée d'arriver à cette journée. Après, il l'a fait avec beaucoup de pudeur et il l'a filmé très intelligemment. Mais oui, je dois vous avouer que ces moments-là sont vraiment pas agréables.
Malgré tout, je me souviens encore une fois, hein, mais je prends pour exemple cette fiction avec Julie de Bonnat qui avait dit qu'elle pouvait pas tomber sur meilleur partenaire que vous, donc pour ce genre de fiction, donc c'est vraiment très très chouette. Vous êtes bien reconnu en tout cas pour ça, avoir une douceur particulière et un respect terrible justement là-dessus. Donc bravo Julien en tout cas pour ces choix de carrière, pour ces choix de comédien. On va vous voir où dans les semaines et les mois qui arrivent? Pour le coup, est-ce qu'il y a d'autres choses, théâtre, cinéma, télévision qui arrivent?
Là, je pars en tournage avec Ophélia Kolb sur un téléfilm France Télévisions qui s'appelle Nos vies en l'air. Voilà, je pars dans 5 jours à Tours pour tourner tout le mois de mars avec elle, avec une actrice que j'aime beaucoup une fois de plus.
Ah, elle est exceptionnelle et on la retrouve d'ailleurs aux côtés de Julien Doré aussi dans cette série pour TF1 également. Donc voilà, plein de belles choses en tout cas. Eh bien, bon séjour en Touraine. J'espère que vous aurez le temps de visiter quelques châteaux, Julien. Et puis on vous retrouve en attendant mercredi dans Tout le monde ment 2. Un film à ne pas manquer évidemment d'Hakim Isker avec tout plein de très beaux mondes autour de vous. Vincent Elbaz, Maria Maguey, Joséphine Demeaux, Marie-Ange Casta. Enfin, franchement, vous êtes super bien entourés, donc on va se régaler évidemment. Merci beaucoup.
Merci à vous.
À très vite.
Au revoir.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé cette semaine, c'est Mercato, le grand lancement sur TF1 jeudi soir à 21h10. Vous allez pouvoir découvrir les deux premiers épisodes produits par les producteurs de HPI qui sont avec nous. On a Anthony Lancret qui est là. Bonjour Anthony.
Bonjour.
On a Pierre Logier également qui est avec nous. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Et le créateur de la série, Jérémy Marcus, également, qui est avec nous. Bonjour Jérémy.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être là tous les trois pour commencer à parler de cette série qui débarque jeudi. Il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a des enquêtes, il y a plein de choses dans cette série. Franchement, c'est prometteur, j'ai vu les deux premiers épisodes, ça déglingue.
Bah, on est très très fiers de cette série, on est très très fiers de venir avec une nouvelle proposition pour le jeudi soir de TF1 et en amenant maintenant un nouvel ingrédient qui est la comédie d'action.
Et ça, c'est chouette parce que c'est créé par Jérémy Marcus. Où est venue cette idée, du coup, de réunir Arnaud et Manon Azem pour ce duo improbable?
C'est Anthony et Pierre qui m'ont appelé un jour et qui m'ont dit « on a envie de faire une série sur Marseille ». Il se trouvait que j'avais vécu à Marseille, ça, ils le savaient pas. Je suis reparti du rendez-vous avec quelques mots-clés bien pensés, dont action, comédie. Quand ça se passe comme ça chez moi, en général, c'est plutôt bon signe, c'est que j'ai commencé à tirer la pelote de laine et j'ai pas réussi à l'arrêter. Et je leur ai envoyé assez rapidement, finalement, un texte. Et voilà comment c'est né. Et après, on a grossi l'équipe petit à petit, tout le monde s'est agrégé. Et Manon, je tiens à le préciser, pour un auteur, c'est un vrai privilège, j'avais écrit en pensant à Manon et à Arnaud. Et en tant qu'auteur, avoir les acteurs que j'imaginais dans les rôles, c'est un truc de fou. Donc c'est vraiment génial, quoi.
Alors c'est très prometteur, c'est ce que je disais, parce que on y retrouve dès le départ beaucoup d'action avec Arnaud qui va donc se retrouver parachuté à Marseille, et évidemment ça va pas être sans heurts, et quand il va découvrir le personnage de Manon Azem et ce qui se passe à Marseille, il va pas rester qu'à Marseille, ça va être compliqué tout ça.
Effectivement, d'ailleurs je l'ai vécu moi-même avec ma femme qu'on a quitté Paris quand on est allé vivre à Marseille, et on a débarqué là-bas et on a vite compris que si on s'adaptait pas, on n'allait pas survivre. Mais du coup on est devenu plus Marseillais que les Marseillais. Et aujourd'hui, c'est une ville qu'on kiffe. Et si on devait aller s'installer quelque part, ce serait là-bas. C'est vraiment. Et du coup, j'ai transposé ça sur le personnage d'Arnaud. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses et d'anecdotes que j'ai vécues, qu'on a vécues et qui sont réelles. Les Marseillais reconnaîtront.
Le troisième grand personnage de cette série, c'est Marseille, où rien ne se passe finalement comme prévu, et avec ce dépaysement total pour notre héros et cet attachement fou qu'on va avoir avec cette ville.
Oui, parce qu'évidemment, il va y rester. C'est un peu une punition pour lui, en tout cas, de se retrouver à Marseille, pour le meilleur et peut-être pour le pire. C'est ce qu'on verra, en tout cas, en découvrant cette série. Pierre, est-ce que ça met une petite pression, quand même, supplémentaire, quand on produit une série comme HPI, qui fait 10 millions de téléspectateurs, c'est le plus gros carton français de ces dernières années? Est-ce qu'on se dit, on va jamais réussir à faire aussi bien avec une autre série, où on se dit, on va essayer encore de pousser les curseurs, on va essayer encore d'aller plus loin?
C'est pas la question la plus simple. La pression, j'ai envie de dire qu'on se la met tout le temps. On l'avait déjà très fort sur HPI. C'était de toute façon un saut dans l'inconnu. Le succès a été une immense surprise. On se met la pression quand on fait une saison 2 de HPI. Et donc forcément, quand on arrive avec une nouvelle série, on essaye, nous, à notre échelle, de faire le meilleur possible, de réussir chaque épisode. C'est une pression du quotidien, mais qui est en fait un travail perpétuel, et de ne jamais rien lâcher pour emmener la série le plus loin possible. Après, une fois qu'elle est terminée et qu'elle est prête à être diffusée, ça ne nous appartient plus, et voilà, on a la pression, on essaye de se la mettre sur ce qu'on maîtrise. Après, on maîtrise plus rien, donc évidemment, on espère que le public appréciera la série. Le contexte n'est pas tout à fait le même. Le plus important pour nous, c'est d'avoir le sentiment que cette série correspond à ce qu'on imaginait, et puis le public décidera.
Je suis sûr qu'il sera là, en tout cas, jeudi soir, parce que vu comment ça démarre très fort. Jérémy, j'ai commencé à résumer un petit peu, mais vu par l'auteur, rien de tel quand même de pitcher les 5 premières minutes, comment ça démarre cette histoire?
C'est un Parisien, un flic de bureau, qui n'est absolument pas habitué au terrain, qui s'est jamais servi de son arme, qui se retrouve dans une situation où il est obligé de se servir de cette arme, et il commet la boulette qu'il fallait pas, shooter un joueur de l'OM. Et la sanction, ça va être la pire des sanctions qui puissent lui tomber dessus, à savoir être muté, justement, à Marseille.
Il va essayer de se cacher, mais ça va pas durer longtemps.
Voilà, tout va être une question de survie. Voilà. Mais c'est surtout aussi, en fait, il y a quelque chose, moi, qui me touche toujours dans la fiction, c'est le sacrifice, mais aussi l'union, la concorde, au sens premier du terme. Quand vous regardez la définition de la concorde, c'est l'union des cœurs. Et j'espère, j'ose espérer qu'on le ressentira dans cette série, parce que c'est quelque chose qui, moi, en tant que spectateur, me touche énormément. Vous le trouvez d'ailleurs dans des films comme Little Miss Sunshine ou même les Avengers, peu importe comment c'est véhiculé, dans des films d'auteur, dans des gros budgets, peu importe. J'espère que dans une série TF1 Prime Time, on va le retrouver. Et parce que j'aime sincèrement la télé qui a ce côté encore de réunion du public. Elle fait des belles audiences, le cinéma est très segmentant. Là, on a le public qui va se retrouver, j'espère, je croise les doigts, et ils seront rassemblés au même instant. Et c'est hyper touchant, en fait, pour un auteur.
Et il y a tout plein d'autres acteurs, évidemment, qui gravitent autour de Manon et de Arnaud, avec des guests également qui vont être là à chaque épisode. Anthony,
on a Pef qui joue le commissaire qui est marseillais d'ailleurs, Pierre-François Martin Laval. On a Koff, Fouednaba. On tenait vraiment à avoir tout autour de nos héros Marseille et des vrais Marseillais pour vraiment avoir cette authenticité. Ça fait vraiment un cocktail détonnant.
C'est peut-être tôt, hein, et c'est pas la même prod, mais maintenant, comme c'est la même chaîne, on peut rêver à un crossover Plus belle la vie. maintenant. Entre ces enquêteurs et Bauer et Nebout, ça serait énorme, ça.
Vous pouvez rêver, ouais, ouais.
Bon, en tout cas, on va retrouver Mercato, c'est jeudi à 21h10, évidemment, sur TF1. On suit les deux premiers épisodes. On va écouter la bande annonce et on va revenir juste après avec Manon Azem qui va venir nous rejoindre. Et on continuera à en parler puisqu'on a la réalisation la semaine prochaine pour les prochains épisodes aussi de Simon Assier qui viendra nous rejoindre. Merci beaucoup, les garçons.
Merci beaucoup, Alain.
Merci, Alain.
Au revoir.
Revenons à présent sur l'affaire Brandalinho et le chaos qui règne à Marseille depuis que la star brésilienne a été blessée.
Insultes, menaces, c'est le feu sur les réseaux sociaux.
Vous êtes muté.
Où ça?
PJ de Marseille.
Non.
Encore un Parisien qui a pas tenu deux semaines comme d'hab.
Promets-moi de faire un effort avec le nouveau.
C'est moi le nouveau chef de groupe. C'est moi qui donne les ordres.
Oh, tranquille le Parisien.
Je veux juste rentrer chez moi.
Allez, de retour pour notre spécial Mercato. Je rappelle que c'est jeudi à 21h10 sur TF1. Et on a Manon Azem qui nous a rejoint comme prévu. Bonjour Manon et merci d'être avec nous.
Merci à vous, bonjour à tous.
Vous allez découvrir Nora et ça va envoyer. Mais ça va envoyer du lourd avec de la cascade, de la comédie policière. J'ai l'impression, te connaissant un petit peu, maintenant qu'il y a tout ce qu'il faut dans Mercato pour que tu n'aies même pas à hésiter une seconde pour endosser ce rôle.
Bah tu l'as dit, il y a tout. Il y a de l'humour, il y a de la cascade, il y a de l'émotion. Il y a de la comédie, il y a de la sincérité, il y a tout ce qu'il faut pour que je puisse être épanouie en tant que comédienne, vraiment.
Mais c'est dingue, puis les paysages sont magnifiques, on le disait il y a un instant, mais Marseille est aussi un personnage à part entière. Donc on a planté un peu le décor de ce Parisien qui débarque à Marseille, et comme tu dirais, c'est ça Marseille bébé.
C'est ça Marseille bébé. Bah ouais, c'est fou, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles, c'est tout à l'instinct. Ça ressemble à ce personnage de Nora, qui est une meuf qui est extrêmement... qui sent les choses, qui est instinctive, comme Marseille. C'est-à-dire que elle fait ce qu'elle pense être bien, elle fait ce qu'elle pense être le mieux, et elle le fait, elle pense à elle avant tout, voilà.
Comment tu la définirais, toi, Nora, précisément?
Tu l'as dit, c'est une badass, mais je crois que c'est une meuf...
Je l'ai dit en antenne, hein. Je spécifie pour ceux qu'on n'a pas entendu, mais c'est ce que j'ai dit à Manon juste avant, pendant la bande-annonce, c'est ce que j'ai dit à Manon, c'est vrai que la meuf est hyper badass quand même.
Bah, elle est badass, elle est couillue, elle est contemporaine, elle me ressemble aussi sur plein de points, parce qu'elle reste aussi très fragile et sensible, et moi j'avais pas envie d'avoir une... Maintenant c'est très à la mode d'avoir des meufs badass, alors maintenant les meufs elles sont là, elles se tapent, elles sont hyper violentes, elles sont hyper fortes. Mais moi, j'avais pas envie qu'elle ne soit que forte. Ah ouais, et c'était intéressant qu'elle ait aussi une part de fébrilité, une part d'intime qui lui appartienne, avec une histoire qui lui appartient, qui soit pas trop surlignée, même si on a besoin d'avoir quand même les axes. Mais je trouve qu'elle est très, sincère, elle est très vraie. Et je l'adore parce que elle a beaucoup de second degré aussi, elle se prend pas au sérieux. Et du coup, moi, en tant que comédienne, je me régale parce que j'ai aucune limite, en fait. Il y a aucune porte que je peux pas ouvrir.
Elle embarque d'ailleurs toute son équipe, hein, dans ce non-sérieux, en quelque sorte.
Bien sûr. Puis c'était hyper intéressant pour moi, pour une fois, de ne pas passer derrière le mec, le rôle principal. C'est-à-dire que là, c'est moi qui conduis la voiture. C'est moi qui fais la cascade. C'est moi qui tape. C'est moi qui monte dans l'avion. C'est moi qui conduis l'avion. Et je suis plus juste, l'espèce de faire-valoir, féminin, joli derrière. Là, j'ai une vraie, j'amène quelque chose dans l'action aussi. Du coup, bah, égoïstement, c'est très agréable.
Voilà. Oui, et puis c'est un peu Arnaud, du coup, le personnage un peu plus fragile, du coup. C'est ça qui est drôle.
Bah, tout d'un coup, c'est l'homme, mec d'un mètre 90 qui a peur de la vitesse, qui a peur des règles, qui a peur de l'inconnu. Et je trouve ça assez contemporain et très agréable de modifier un peu ses codes. Mais la déconstruction, elle est en train de se faire et c'est très agréable pour nous actrices, hein.
Et puis il y a franchement cette série c'est vraiment l'héroïne de base, parce que quand il arrive lui Parisien débarqué à Marseille, alors quand ça va se savoir en plus qu'il est Parisien, ça va envoyer du feu de partout là.
Bien sûr. Non, ce qui est très drôle aussi, c'est effectivement cet aspect bataille Parisien Marseillais qui existe, on pourrait dire ce qu'on voudra, ça existe dans la vraie vie. Et que quand t'as une plaque de bagnole parisienne à Marseille, tu te fais crever les pneus, et c'est comme ça. Donc c'est chouette de l'amener avec beaucoup d'humour et de sympathie. C'est chouette et c'est réel, donc c'est top.
C'est un hommage un peu aussi, j'ai trouvé. Il y a quelques clins d'œil quand même à Taxi. On peut pas passer à côté, mais il y a vraiment quelques petits clins d'œil hyper sympas dans les courses de voitures.
Évidemment, la voiture jaune à Marseille sur le Prado, c'est une dédicace à Taxi. Moi, ça a été toute mon enfance, et je suis très honorée de participer à une série policière de comédie, parce que j'avais déjà fait moi les séries policières et j'avais été un peu écœurée, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu la même chose, et là on sort des cadres, on s'autorise à mettre de l'humour, à mettre de la cascade, à mettre du second degré dans quelque chose qui devient à mes yeux un peu chiant, quoi.
Alors, les deux premières enquêtes qu'on va suivre donc jeudi, comment tu peux nous dévoiler quelques petites choses sur la première enquête qui va arriver?
Ah bah, la première enquête, ça va être aussi surtout la rencontre de ce Paris-Marseille, la rencontre de ce Thomas Nora, de cette deux façons de travailler. Il y aura des enquêtes qui vont être à chaque fois très différentes, je vous dis rien, mais chaque épisode sera très différent. On ira dans un univers complètement déjanté à chaque fois. Et j'ai l'impression, c'est là où j'en suis fière, que la comédie ne cessera d'augmenter. C'est-à-dire que les deux premiers épisodes, quelque chose de plus...
d'installation, peut-être.
D'installation qu'il faut faire sur les personnages. C'est important de d'établir un peu la situation. Et au fur et à mesure, on va pouvoir lâcher les codes pour pouvoir rentrer dans une espèce de folie et de second degré qui va nous faire beaucoup de bien. En tout cas, nous, en tant que comédiens, qui nous a régalés.
Il y a une scène particulière qui va rester sur cette première saison, en tout cas, en mémoire.
Bah non, mais moi j'en ai plein. C'est-à-dire que moi, mais je vais dire moi en tant que comédienne égoïstement, j'ai quand même couru derrière un avion en marche et j'ai sauté dans l'avion et je l'ai vraiment fait sans cascade. Hein. J'ai pas eu de cascadeur qui l'a fait, donc ça je m'en rappellerai toute ma vie.
C'est toi qui refuses la plupart du temps les doublures? Ou alors il y en a qui ils essayent de t'imposer des doublures malgré tout, puis il y a aussi des histoires d'assurance où des fois t'as pas le choix.
Bah, c'est évidemment les assurances, mais là il y a quand même ils ont quand même compris que j'avais très envie de mettre les mains dedans. Et ils m'ont laissé par exemple faire cette cascade et je les remercie parce que enfin qui fait ça en fait à part un comédien dans une vie. Je me rends compte de la chance que j'ai et de faire ces rôles-là, c'est-à-dire que souvent je me suis souvent plaint en me disant ouais mais moi on me donne pas les rôles de jeune première, je fais pas les amoureuses, je fais pas les rôles de Juliette. Ouais je fais pas les rôles de Juliette, mais je fais les rôles de mecs qui sont maintenant des meufs.
C'est notre bébé au féminin.
Exactement, c'est mal et j'en suis. Donc ouais, tous les trucs d'action j'ai adoré. Après moi j'ai les scènes de comédie avec Arnaud, j'en ai plein en tête. On a tellement eu de fou rire. Je vous le dis, je n'ai jamais autant ri de ma vie avec un acteur sur un plateau. C'est la première fois.
Et puis lui, quand il a l'œil qui frise, il n'est pas le dernier non plus, hein, à envoyer.
Il est hilarant. Non, et puis il est d'une générosité. Il est, c'est un vrai bonheur de travailler avec lui. Autant en tant que comédienne, c'est-à-dire qu'artistiquement, il m'élève, c'est-à-dire que il est toujours connaît son texte parfaitement, il va toujours essayer de travailler pour amener la scène encore plus haut, mais humainement aussi, c'est vraiment une très belle personne. J'ai adoré travailler avec lui pendant des mois et j'ai hâte de le retrouver parce que j'ai rarement eu une aussi belle connexion.
Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il n'y a pas que les enquêtes, on voit aussi le côté privé, bien sûr, Nora avec sa sœur, etc. Mais il y a vraiment tout un côté aussi privé. Est-ce qu'on peut peut-être, à l'avenir, découvrir des secrets sur Nora? Est-ce que, dans cette première saison, on découvrira des secrets sur elle?
Bah, évidemment, elle est remplie de secrets, la gamine. Évidemment, elle est, ils ont fait, à l'écriture, ils ont fait exprès de pas tout amener, de pas surligner le trait de ce personnage trop rapidement. Mais évidemment, on va découvrir son passé, son histoire, pourquoi elle est aussi violente, pourquoi elle est aussi dure, pourquoi elle est aussi fragile aussi en même temps. Et c'est des choses qu'on va ouvrir, c'est des portes qu'on va ouvrir au fur et à mesure, parce qu'il faut y aller mollo.
Ouais, faut pas ouvrir toutes les boîtes de Pandore en même temps.
Bah non, sinon c'est pas marrant, il n'y a plus rien à manger sinon après.
Bon, après ça c'est à titre totalement égoïste, hein, mais parce que j'ai pas encore vu le sixième épisode, mais est-ce que la fin du sixième est ouverte? Est-ce qu'on peut espérer une saison 2 de Mercato?
Inch'Allah les gars, Inch'Allah, vraiment j'adorerais, je peux pas vous dire autrement, mais malheureusement c'est pas nous qui décidons.
En tout cas la fin est ouverte, si le public est là, toi t'es partante.
Mais évidemment, non, c'est-à-dire que je vais vous dire, les épisodes sont écrits pour une saison 2, les dates sont posées, maintenant on attend juste que le public clique, regarde, apprécie, et après ça si ça marche, y a là. Hein.
Bah écoute, on sera là, on va être là, en tout cas on va tout faire pour que ça fonctionne, en tout cas et qu'on soit avec vous. La semaine prochaine d'ailleurs on recevra Simon Astier qui viendra nous parler de ses épisodes à lui, puisque vous avez également un grand de chance d'avoir Simon Astier en réalisateur sur les épisodes 3-6. Donc voilà, plein de belles choses. En tout cas, c'est prometteur. Moi, j'ai vu les deux premiers. Ça déboîte sec. Donc merci Manon, en tout cas. On termine par tes projets pour 2024?
Oui, alors je suis en train de tourner un film à Marrakech qui va s'appeler Le Routard avec Hakim Jimili, Michel Blanc, Christian Clavier. C'est sur Le Routard et c'est formidable. Je vais jouer une guide au Maroc. Ça va être un film d'aventure, un film de encore une fois de cascade. J'ai encore plein de cascades à faire, donc je me régale. Et c'est merveilleux. Je suis très heureuse.
Bon, la vie est belle. Merci Manon, en tout cas, d'avoir été avec nous, d'être si fidèle et puis à notre émission. Et c'est toujours un grand plaisir de t'avoir. Et en tout cas, ne ratez pas Mercato jeudi à 21h10 sur TF1. Et puis quand vous aurez vu les deux premiers, si vous êtes impatient, sachez que pour ceux qui sont abonnés à Premium de TF1+, vous aurez la totalité de la saison pour vous régaler, voilà, pour les impatients. Merci à toi.
Merci beaucoup. Régalez-vous les gars.
Mercato jeudi 21h10 sur TF1.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à Simon Coleman qui fait son grand retour pour un troisième épisode inédit. Ça sera vendredi à 21h10 sur France 2. Et puis si Jean-Michel Tidinvelli a été des nôtres, on l'embrasse très fort sur les deux premiers épisodes. C'est Flavie Péan qui s'y colle aujourd'hui, qui est notre invitée et qui va nous parler évidemment de Chloé Becker. Bonjour Flavie, merci d'être là.
Eh ben bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, merci.
Eh ben écoute, avec grand plaisir, et puis en plus je trouve que vraiment c'est plutôt un rôle super, et puis alors c'est franchement Simon Coleman, c'est un véritable carton. Vous vous attendiez à ça quand vous avez tourné le pilote, vous espériez en tout cas en faire une série et que ça dure dans le temps comme ça?
Non, c'est toujours les bonnes surprises, on est très très content, et puis en plus effectivement là on va partir dans un nouveau format, donc parce qu'on a fait donc c'était 3 épisodes de 90 minutes et là on rentre en tournage pour des 6 fois 52 minutes. Donc c'est vraiment cadeau pour nous quoi. C'est super, on est très très contents.
Alors pour ceux qui n'ont jamais vu Simon Coleman, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur Chloé Becker que tu incarnes?
Eh ben Chloé Becker, donc le personnage que j'interprète, est capitaine de police, c'est la collègue, le binôme de Simon Coleman. Ce qui est très très chouette sur ce binôme, c'est que ils sont, on peut dire, à l'opposé l'un de l'autre. Ils ont des personnalités très fortes, mais très différentes.
C'est moins qu'on puisse dire.
Mon personnage, ouais. Et mon personnage est plutôt quelqu'un de rigoureux, de carré, pas strict, mais voilà, elle a des principes. Alors que lui, Simon, il est très fantasque, un peu partir dans tous les sens. Il est très instinctif, un peu foutraque. Et donc parfois, voilà, ça peut faire des étincelles, mais toujours avec beaucoup de respect l'un pour l'autre. Et ils s'entendent très bien, ils ont envie de faire du bon boulot ensemble. Ça charrie aussi pas mal. Voilà, c'est vraiment bonne ambiance. Et ce qui est très chouette, c'est que mon personnage, qui est un peu femme indépendante, très franche, voilà, elle veut conduire sa voiture, elle laisse personne lui marcher sur les pieds, elle a des principes, c'est quelqu'un de très loyal, mais voilà, qui dirige sa vie de façon très autonome. Elle va donner régulièrement des conseils à Simon, qui lui se retrouve dans une situation familiale très compliquée, puisqu'il a la garde des 3 enfants de sa sœur.
Oui, c'est ce que j'allais dire, ça lui enlève un peu une part aussi. Il est obligé d'être un petit peu plus rigoureux depuis le début, justement, où il est obligé aussi de faire face à ses enfants, qui essaient de le mener par le bout du nez quand même, hein, il faut l'avouer aussi.
Oui, oui, oui. Sont très choux, mais c'est vrai qu'effectivement Simon se retrouve dans des situations qui le dépassent un petit peu, c'est quelque chose qu'il connaît pas du tout, il connaît pas la paternité et donc il a besoin de petits conseils, d'être rassuré dans ces petits moments de panique, et Chloé est là pour l'écouter, pour le conseiller, et donc il y a une relation comme ça qui s'installe entre eux qui est assez jolie, et même s'ils sont très très différents, ils respectent leurs différences, voilà, ils s'acceptent mutuellement, ils en rient aussi souvent, donc voilà, ça crée un joli binôme.
Ah oui, c'est un joli binôme, mais en plus il y a beaucoup de comédie aussi hein, dans le film policier. C'est ce qui cartonne aujourd'hui hein, aussi, c'est d'insérer de la comédie dans les polars.
Exactement. Oui, oui, c'est vrai qu'on est sur une série policière, mais très familiale en fait, avec pas mal d'humour et aussi grâce au reste de l'équipe dans le commissariat, où il y a des personnages comme ça assez drôles, assez comiques. Et donc toute cette équipe au commissariat, je trouve que ça matche bien quoi. Chacun a sa personnalité, sa façon de se comporter bien particulière. Mais il y a du respect pour tout le monde.
Et dans cet épisode, Flavie, on va prendre de la hauteur, puisqu'on va nous emmener à 4000 mètres d'altitude, où 3 jeunes femmes vont faire un saut en parachute. Et le problème, c'est que l'une d'entre elles, eh bien, va découvrir que son parachute est saboté. Et malheureusement, ça va très mal se terminer devant les yeux médusés de ses deux autres partenaires. D'accord. Et c'est cette enquête que vous allez mener, en tout cas avec Simon Coleman, où vous allez vous apercevoir qu'effectivement, son parachute a été saboté. Alors pourquoi, comment, c'est ça qu'on va découvrir.
Ah bah je vous le dis pas. Ah bah ouais. Là je ne dis rien. Je ne peux rien dire.
Bon, en tout cas c'est une nouvelle enquête à regarder vendredi soir pour tout savoir. Alors, il y a des beaux guests. Hein. Il y a Joss Biebring dedans. Il y a Laurent Gamelon. Il y a vraiment tout plein de beau monde hein, à vos côtés.
Oui, oui, oui. On avait une superbe équipe, des super comédiens. On a tourné quelques séquences vers Gap, dans un vrai centre de parachutisme. Et pour la petite anecdote, ce qui est dingue, c'est qu'en fait, j'avais fait moi mon baptême de saut en parachute il y a 10 ans, je pense, là-bas. Et je m'en suis rendu compte le premier jour de tournage, quand je suis arrivée sur le plateau. Je me suis dit, mais je connais cet endroit. Et en fait, voilà, j'avais sauté en parachute là-bas, mais
c'est bon, génial,
il y a quelques années. J'étais très contente d'y retourner, d'être de l'autre côté, voilà, de discuter avec les équipes. Et j'étais beaucoup plus décontractée, hein, parce que il y a 10 ans.
C'est ça. Bon, en tout cas, c'est parti pour 6 épisodes de 52 minutes, changement de format pour Simon Coleman à l'avenir, puisque la série va prendre du galon avec 6 épisodes tournés d'un coup. Donc, on aura le plaisir de vous retrouver pour 3 nouvelles soirées inédites en 2025.
Exactement.
Ou fin 2024, en tout cas.
Oui, on ne sait pas encore. Je pense que ce sera 2025, mais bon, voilà. En tout cas, là, on démarre le tournage. Je suis très content entre Aix et Marseille.
Bon, t'embrasse très fort en tout cas Jean-Michel de notre part. Un petit mot Flavie, puisque tu as marqué énormément les esprits dans ce rôle de Victoire Lissajou dans Plus belle la vie. Et j'imagine peut-être ta joie de revoir partir justement tes collègues dans cette nouvelle mouture. C'est quand même la meilleure nouvelle de l'année de les voir tous repartir au travail après après l'arrêt de la série. Et est-ce que toi en tout cas, si on t'appelait pour une intrigue une arche, est-ce que tu serais partante pour y retourner?
Honnêtement, je sais pas. Je me suis pas réellement posé la question. Je savais que j'allais pas être appelée dans l'immédiat parce que j'avais quitté la série depuis pas mal de temps avant qu'elle s'arrête sur France 3. J'étais très très heureuse pour les copains que ça reprenne. En plus, succès, donc c'est vraiment génial. Moi, c'est vrai que j'ai vraiment concentré mon attention sur Simon Coleman. Donc peut-être, j'en sais rien. Honnêtement, je sais pas du tout. J'ai envie aussi de me tourner vers des rôles que j'ai pas encore interprétés, vers des choses nouvelles. Mais voilà.
La porte n'est pas fermée. Bon, voilà. En tout cas, merci à toi Flavie d'avoir été avec nous. On te retrouve dans le rôle de Chloé Becker. Ça sera donc vendredi soir dans ce nouvel épisode inédit de Simon Coleman. À bientôt, merci.
Merci, oui, à bientôt, bonne journée. Merci beaucoup, au revoir.
Bonjour, ça va? Tout le monde a bien dormi? Tout le monde est là, je vois, c'est génial.
Filou, mon chocolat chaud et mon jus d'orange.
Tout est là. Je vous présente le tableau de répartition des tâches. Votre nouvel ami. Aspirateur pour ceux qui n'auraient pas compris, petit déjeuner, lessive, tout y est, au jour et à l'heure près. C'est clair, c'est net, c'est précis, on peut pas se planter.
C'est quoi ça, tu veux nous fliquer en fait?
Hein?
C'est abusé un peu.
De là, ça fait 3 mois que je fais tout, franchement, non, regarde. Là, personne se défile, personne ne triche. Par exemple, ce matin, tu fais le petit déjeuner, ça me débarrasse.
Non.
Et Clara, elle est off. Bon, t'as un truc à me demander ou?
Pas du tout.
Vas-y, je t'écoute, balance.
Oh là 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 là, t'es vraiment trop fort, tonton. J'aimerais vraiment pas être en garde à vue face à toi.
J'avoue.
Les mythos, t'en fais trop.
Non, mais en vrai, j'aimerais m'inscrire à une application de trottinette électrique.
T'as sûrement pas.
Mais.
Non.
Mais tonton!
Non, c'est trop dangereux.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. A tout de suite. Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Je compte les secondes, je vois passer le jour, j'aimerais en faire le tour. J'ai tous les mots qui collent à ma peau, j'ai tant de choses à dire, mais si peur d'en souffrir. Est-ce qu'on m'entendra un jour? Est-ce qu'on m'entendra de loin? Est-ce qu'on m'attendra toujours? Est-ce qu'on m'aimera demain? Être aimé pour de vrai, et puis tirer un trait sur le passé douloureux, sur les larmes dans mes yeux. Être aimé comme je suis, et puis changer de vie. Car moi tout ce que je veux, c'est des étoiles dans les yeux. Par la fenêtre, je vois passer mes rêves. Ils s'envolent avec le temps, ils s'envolent après le vent. Mais cette fois je me lève pour enfin être celle qui a eu tout le courage de toucher les nuages. Je commence à y croire, je trouverai ma place un jour, je trouverai enfin ma voix, et on ne verra que moi. Être aimé pour de vrai, et puis tirer un trait sur le passé douloureux, sur les larmes dans mes yeux. Être aimé comme je suis, et puis changer de vie. Car moi tout ce que je veux, c'est des étoiles dans nos yeux. Je veux qu'on me regarde, que ma voix vous embarque. Fini les heures à attendre, je suis sortie de ma chambre. Être aimé pour de vrai, et puis tirer un trait sur le passé douloureux, sur les larmes dans mes yeux. Me voilà. que je veux, c'est des étoiles dans nos yeux, dans nos yeux.
Tous les bonus audio et vidéos de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chute, on écoute la télé. Chute, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné cette semaine est consacré à La Nouvelle Femme, le film de Léa Todorov qui est avec nous. Bonjour Léa.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On va y suivre dans ce film un parcours de femme au pluriel incarné par Jasmine Trinca et Leila Bekti. Et puis surtout découvrir une histoire, celle de Maria Montessori à travers cette fiction. Parce que même si c'est fictionné, on y découvre ce parcours de femme qui a changé littéralement beaucoup de choses dans la manière d'enseigner, dans certaines écoles notamment. Et on est un peu aux prémices de tout ça dans le film. Comment est venue l'idée déjà pour commencer ?
Bah, j'avais eu la chance de participer à l'écriture d'un documentaire sur les pédagogies nouvelles il y a quelques années. Et quand je travaillais sur ce film, j'avais lu des biographies de à peu près tous les grands pédagogues du début du XXe siècle. Et Maria Montessori, c'était la grande star à l'époque. Elle avait une aura internationale et je pense qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui à quel point déjà à l'époque, certaines figures, et elle en faisait partie, pouvaient être connues. De l'Angleterre à l'Espagne, à l'Italie, à la Hollande et entre autres aux États-Unis où elle avait fait une tournée triomphante juste avant la Première Guerre mondiale. Et j'avais pris beaucoup de plaisir à découvrir sa vie parce que je la trouvais beaucoup plus riche que l'image que j'en avais avant. Et entre autres, j'avais découvert à la fois son engagement féministe quand elle était une jeune femme et aussi la relation très compliquée et très singulière qu'elle a eue avec son fils.
Alors, on va y suivre le parcours de Lily, si je me souviens, avec la petite Tina. Lily habite Paris, on est début des années 1900, donc vraiment au tout début du XXe siècle, en quelque sorte, avec sa petite fille, qui est une enfant différente des autres. Elle vit assez mal et elle décide de déménager à Rome pour aller s'installer loin du regard des autres, en quelque sorte, et elle va y faire la connaissance de Maria Montessori. Alors, même si c'est fictionné, on y découvre, je veux dire, vraiment, c'est une rencontre forte entre ces deux femmes.
Bah, j'avais découvert que quand on avait des moyens à l'époque, on cachait tellement bien ses enfants que les médecins étaient persuadés qu'il n'y avait que chez les pauvres qu'il pouvait y avoir des enfants qu'on appelle différents. Et je trouvais que c'était assez fascinant parce que je pense qu'aujourd'hui encore, c'est quand même une population qu'on a du mal à regarder et à un endroit assumé au sein de notre société. Donc c'est vrai que ça me tenait particulièrement à cœur de mettre en avant ces enfants et aussi l'histoire de cette petite fille au sein du film. Et oui, ensuite, dans le film, l'idée, c'est vraiment que ces deux femmes vont se rencontrer, qu'au début, quelque part, tout les oppose dans leurs valeurs et leur manière de percevoir le monde, puisque Lily, elle a justement honte de cette fille, de sa fille, elle a envie de retourner dans sa vie de cocotte parisienne, très facile, un peu... C'est une courtisane qui fait des spectacles et profite de l'existence. Là où Maria a un côté besogneux, sérieux, c'est une femme savante, intellectuelle.
Elle est médecin, à cette époque-là.
Elle est médecin, on dit que c'est une des premières femmes médecins comme ça en Italie, et elle est vraiment à l'inverse déjà totalement dédiée à ses enfants neuroatypiques. Et dans leur rencontre, bah, elles vont chacune pouvoir s'apporter quelque chose. Et si il était assez évident de se dire qu'est-ce que Maria pouvait apporter à Lily, c'était aussi tout mon travail que de trouver comment Lily allait pouvoir apporter quelque chose à Maria.
Moi, je vous ai entendu dire, Léa, dans une interview, pour le coup, que vous ne vouliez pas faire un biopic sur Maria Montessori, mais plus, justement, montrer un pan de son histoire à travers une histoire fictionnée et la rencontre de ces deux femmes, mais pas un biopic parce que vous vouliez laisser ça aux Italiens, en quelque sorte. C'était une volonté dès le départ.
Dès le départ, c'est aussi vraiment pour ça que j'ai créé un personnage de française pour incarner mon point de vue aussi de française, que je trouvais ça difficile de faire un film qui soit par exemple entièrement en italien. Ça m'aurait paru étrange, sachant que j'ai quand même appris la langue pour le tournage, mais qu'avant je la parlais pas. Donc je trouvais ça mieux d'avoir un personnage qui incarne aussi mon point de vue. Et puis je trouvais qu'il y avait quelque chose aussi dans l'histoire intime de Lily et dans le rejet qu'elle a de son enfance. C'est aussi le rejet qu'on a nous comme société de ces enfants, voilà ce que je disais au début. Et donc c'est vrai que c'était très important pour moi d'avoir un personnage qui incarne ça, que tout le monde dans l'environnement de Maria Montessori est déjà familier finalement de ces enfants et de ce public, est déjà en train de travailler avec eux pour les aider à s'éduquer et à accéder à la vie la plus normale possible. Or le personnage de Lily, lui, il est dans tout l'inverse, dans un rejet violent, dans un refus de regarder. Et donc, j'avais à cœur que le spectateur suive ce cheminement du regard là aussi, et que ça soit par le truchement de Lily qu'on rentre dans l'institut.
Alors, on va parler des enfants qui tiennent une place évidemment très importante dans ce film, et du casting assez incroyable, hein, que ce soit pour la petite Tina, mais aussi pour tous les enfants qu'on découvre, notamment à l'école, puisque c'est des enfants neuroatypiques qui ont été castés, justement. Et il y a eu un vrai travail de fait dessus. On va en parler avec vous, Léa, juste après la bande-annonce. Ça s'appelle La Nouvelle Femme, et ça sort mercredi au cinéma. On écoute.
Buongiorno, signora. Maria Montessori.
C'est pour l'enfant. Vous prenez des enfants comme ça?
C'est vous qui vous en occupez?
Non.
C'est un institut pédagogique ici, pas un orphelinat.
Dai. Les idiots restent idiots, ils ne guérissent pas.
Bravo. Apprenez-la alors.
Non, non, non.
Je m'appelle Tina.
Dites-je, j'ai inventé une méthode.
Non.
Si, racontez-nous une histoire.
Je vais révolutionner l'école. Et l'intuition que les méthodes développées à l'institut n'ont rien de spécifique à l'éducation des idiots.
Blue.
De retour pour La Nouvelle Femme, c'est mercredi dans les salles. Léa Todorov, la réalisatrice, est avec nous. On va parler du casting des enfants. Il y a vraiment eu un travail très très soigné justement qui a été fait, et une volonté d'aller chercher des enfants neuroatypiques pour jouer justement ces rôles-là.
Ça s'est déterminé quand je travaillais sur la résidence émergence, qui était un dispositif qui a malheureusement disparu, mais qui permettait à des réalisateurs de premiers longs métrages de tourner comme un essai de 2 jours de leur film. Et quand j'ai eu accès à cette résidence, ça m'a obligée de me poser la question du casting des enfants, sur laquelle j'avais fait un peu un blackout jusqu'à ce moment-là. Quand j'écrivais, je réfléchissais pas du tout à qui allait incarner le rôle de Tina et les rôles des autres enfants. Et tout d'un coup, à ce moment-là, avec la directrice de casting, qui est Sandy Galan-Pérez, on a commencé à faire appel, à plein d'associations, d'instituts, de plein de lieux qui accueillent des enfants, alors ou neuroatypiques ou porteurs de handicap moteur. Je le dis parce qu'ils ont pour le coup aucun trouble cognitif, ces enfants-là, pour pouvoir avoir dans le film, des enfants qui portent vraiment avec eux ces questions-là, mais aussi parce qu'il nous importait de voir qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire ensemble. Et dès la préparation de ce petit film, on a pris un plaisir mais fou à travailler avec eux, avec l'impression qu'ils irriguaient d'idées et d'inspiration le projet tout entier. Et donc, ils sont progressivement devenus vraiment pour moi le cœur battant du film. Et on a travaillé en faisant des stages avec eux de musique, de chant, de théâtre, de jeu. On a progressivement introduit les techniciens de plateau, l'ambiance avec le silence, action, tourne et tout ça. Et aussi l'italien. Et ça, c'était le moment où j'avais l'impression de devenir complètement starbouille, parce que j'étais là avec ces enfants dont certains ne parlent pas, tout simplement. Donc communiquent autrement, mais enfin n'ont pas accès à la parole. À leur parler italien, alors que moi-même, 6 mois plus tôt, je parlais pas du tout italien, avec toute mon équipe qui faisait semblant de dire buongiorno bambini, etc. Alors que voilà, on était pas très fort. Et ce qui était génial, c'est qu'on avait l'impression que plus on avait d'exigences envers eux, plus on attendait d'eux, plus ils étaient prêts à nous donner et à répondre à nos attentes. Donc c'est vrai que ça a été un travail vraiment assez formidable. Et heureusement, Jasmine Trinca est arrivée pendant nos stages de préparation pour leur parler un italien un peu correct et donner du sens à tout ça. Donc voilà.
La rencontre a dû être forte. On connaît un peu plus Leïla, nous, pour l'avoir accueillie plusieurs fois dans notre émission. On connaît son amour pour les enfants et justement son aisance. Justement, comment elle a vécu ce tournage, et Jasmine aussi, par la même occasion?
Alors,
les enfants.
Ouais, bien sûr. C'était à la fois l'approche est différente, je dirais, c'est-à-dire que Leïla, ce qui était très nouveau pour elle, c'était de jouer un rôle dans lequel elle devait justement incarner une femme qui a du mal avec ses enfants, du mal à les regarder, ce qui la faisait rire parce que c'est quelque chose qui est très loin d'elle, juste comme vous dites, c'est quelqu'un qui a déjà plusieurs enfants, qui a une grande aisance avec les enfants, qui adore être en contact avec eux, et donc là, de jouer ce personnage de cocotte qui a du mal à regarder sa fille, c'était vraiment un rôle de composition, mais je pense que c'est ça qui l'intéressait aussi. Et sur le tournage, elle était, pour le coup, et c'est là où ça rejoint Jasmine, hyper touchée par les enfants et par tout ce qui dégageait, et aussi par les familles. Leïla, c'était intéressant, elle s'est beaucoup identifiée aux familles, elle a beaucoup pensé à ce que c'était pour les familles que de porter parfois ces problématiques-là, et c'est le fait que, voilà, c'est des familles qui passent quand même beaucoup de temps dans des lieux de soins, à mettre une énergie dingue pour leurs enfants. Et c'est vrai qu'on avait tous le sentiment que le tournage était un peu un écrin, alors pas de repos parce que c'est fatigant pour tout le monde, mais au moins où là, c'était plus une stigmatisation mais une valorisation, donc ça faisait vraiment du bien de participer à ça. Et Jasmine, voilà, pendant le stage qu'on a fait avec les enfants, elle s'isolait pour verser ses petites larmes dans la salle de bain entre les différents moments, parce que c'était une rencontre extrêmement puissante pour elle. Et je pense que de jouer avec des enfants, et peut-être en particulier ces enfants-là, mais je pense que c'est toujours le cas, c'est très touchant parce que pour un acteur, parce qu'on perd un peu ses repères, on doit tout le temps s'adapter, être extrêmement à l'écoute. On peut pas juste dérouler son texte, parce qu'il y a ces enfants-là, et ils ont été tous d'une grande patience et d'une grande générosité avec les enfants. Et Jasmine, le jour de son anniversaire, elle a fait venir un glacier pour tous les enfants, donc là, c'était devenu aussi leur idole.
J'imagine bien. Pour le coup, est-ce qu'il y a des personnes de l'institution Montessori qui ont déjà vu le film? Et si oui, quels sont leurs retours?
Pour l'instant, pas beaucoup. J'étais juste à Sofia en octobre montrer le film, et il y avait des personnes qui ont pu le voir. Ce qu'ils ont trouvé intéressant, je pense, c'était que le film raconte justement une période qui est avant la pédagogie Montessori destinée au public plus large, entre guillemets, tous les enfants. Et donc, ils trouvaient que ce qui était très fidèle à l'esprit, c'était le cœur et l'engagement personnel qui était nécessaire
Maria.
Pour la pédagogie, voilà, de Maria auprès des enfants, ce discours sur aussi l'amour comme vecteur de pédagogie. Je pense qu'aujourd'hui, ils ne le formuleraient pas comme ça, mais en tout cas, l'esprit était le même. Et ils ont beaucoup aimé aussi la place donnée à la musique, qui était pour eux aussi quelque chose de très fidèle.
On va découvrir La Nouvelle Femme, ça sort mercredi dans les salles. Le film à ne pas rater si vous voulez en savoir plus justement sur cette femme, sur la vie de cette femme, en tout cas sur une période de sa vie. Et si vous avez des enfants dans une école Montessori, voilà, ce sera d'autant plus encore plus intéressant peut-être pour vous d'aller voir quelles ont été les prémices de ce que vivent vos enfants aujourd'hui. Merci beaucoup Léa.
Merci à vous, et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à voir le film qu'on a eu à le fabriquer.
Chute, on écoute la télé, spécial festival.
Allez, on va terminer cette émission spécial festival, puisque nous allons aller rejoindre Laurence Herzberg et Frédéric Lavigne, directeur de la programmation, directeur artistique de Sérimania, où l'on sera à partir de vendredi pour vous faire vivre cette édition 2024 qui s'annonce haute en couleurs. Frédéric Lavigne est avec nous en ligne. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
On est très heureux de vous rejoindre à Lille en fin de semaine pour vivre avec vous cette semaine de fête dédiée aux séries françaises et internationales. Et ça s'annonce savoureux, hein, comme planning.
Ah bah oui, c'est toujours extrêmement chargé, enfin comme tous les festivals. Il va falloir faire des choix pour les spectateurs, pour faire son propre programme à l'intérieur de la programmation qu'on a préparée cette année. Ouais.
Quelles sont les grandes lignes, on va dire, au niveau jury, personnalité, et puis surtout, il y a aussi le forum des professionnels, puisque Sérimania, c'est aussi l'objet de rencontres professionnelles.
Oui, alors voilà, donc il y a deux publics un peu différents. Il y a le grand public qui peut bénéficier gratuitement de toutes les séances, parce que c'est un festival gratuit, il faut le rappeler. Il y a environ 110 séances cette année, avec une cinquantaine de séries nouvelles sélectionnées, beaucoup d'invités, des projections de deux premiers épisodes, et puis des débats, et puis des rencontres, des masterclass avec plein de personnalités. Donc tout ça, c'est pour le grand public. Et puis, il y a la partie professionnelle, ce qu'on appelle le forum, qui dure 3 jours à l'intérieur du festival, mais là, qui est réservé vraiment aux professionnels accrédités, payants. Donc, c'est pas du tout le même programme et c'est pas du tout les mêmes publics, même si, évidemment, les professionnels vont aussi en salle.
On a l'impression, quand on regarde de l'extérieur, l'ampleur qu'a pu prendre Cérimania en quelques années, c'est aujourd'hui complètement le festival de Cannes des séries. C'est vraiment l'équivalent du festival de cinéma pour les séries aujourd'hui, puisque vous attirez des personnalités du monde entier à Lille.
Oui, tout à fait. C'était l'ambition du ministère de la Culture et du CNC quand ils ont fait cet appel d'offres que Cérimania a remporté pour s'installer à Lille en 2017, qui était de mettre tous les moyens nécessaires pour que le plus grand festival de référence sur les séries soit en France, avec les moyens nécessaires pour attirer l'industrie internationale et les grandes séries qui se lancent. Effectivement, en France, on a les plus grands festivals à la fois en cinéma d'animation, à Annecy, au court-métrage, à Clermont-Ferrand, à Cannes avec le film. Je sais aussi que Avignon, au théâtre, là, est un des plus gros. Donc, c'était l'idée d'avoir la même chose pour les séries. Et donc, on l'a développé à Lille, là où on avait la place et le public formidablement chaleureux aussi pour le faire.
Alors, il y aura un jury qui va s'occuper de la compétition internationale avec aujourd'hui notamment Bérénice Bégeot qui sera dans ce jury, ou encore Charlotte Brandstrom. Il y aura un jury pour la compétition Panorama International, un jury compétition format court avec Fabrice Gobert, hein, le créateur des Revenants, notamment une série pour Canal. Et puis, il y aura des masterclass avec Clémentine Sellary et Audrey Fleurot, Camélia Jordana, Douglas Kennedy, et puis une des héroïnes de Melrose Place, Kelly Rutherford aussi qui sera là à Lille, Laurent Lafitte. Bref, ça s'annonce vraiment bien.
Oui, on a vraiment beaucoup de chance cette année. Et encore, là, il y a des noms qui vont peut-être se rajouter à la toute dernière minute. On a aussi l'acteur Peter Mullan, qui est un formidable acteur écossais, qui vient avec une série néo-zélandaise et qui fera une masterclass sur sa carrière. Il avait joué avec Ken Loach, il était dans Top of the Lake aussi. Voilà, donc on a effectivement à la fois des Français, des internationaux, et on a toutes ces séries avec des acteurs des fois très connus, hein, comme Dans l'ombre, qui fera aussi la compétition internationale, où on a Melville Poupeau, Karen Viard, Swan Arlo qui seront présents pour lancer la série.
Et puis la première européenne pour la série Netflix Le problème à trois corps, ça sera donc en ouverture de cette édition vendredi soir. Et le festival effectivement s'ouvre également aux plateformes. Ce n'est pas qu'un festival pour tout ce qui est télésérie, mais c'est vraiment au sens très large du terme, avec aussi les séries internet, hein, on peut le dire, ou encore les séries de plateformes comme Netflix, Amazon. Toutes les plateformes sont aussi représentées à Lille.
Oui, tout à fait. Maintenant, on ne fait plus du tout de différence. On appelle séries télé des séries, quel que soit leur mode de diffusion. Aujourd'hui même, les chaînes traditionnelles ont leur plateforme, où la plupart des gens, d'ailleurs, regardent un peu à la carte et à l'horaire qu'ils veulent. Donc, les plateformes américaines qui se sont rajoutées rentrent dans le jeu. Il n'y a plus du tout de différence entre les unes et les autres. Et d'ailleurs, nous, on ne fait pas de catégorie spécifique.
Alors, on va rappeler, Frédéric, que le festival est entièrement gratuit pour le public qui veulent aller découvrir, en tout cas, ces séries en avant-première en présence des artistes qui sont là et des équipes techniques, notamment. Et puis, Audrey Fleurot sera une des stars, évidemment, puisque elle est en plein tournage de HPI qui est tournée dans le Nord. Ça va être un peu, on va dire, la série locale, hein, pour le coup, et qui est aujourd'hui la série la française la plus suivie, hein, en France.
Oui, tout à fait. On a une chance comme ça d'avoir le tournage qui se termine vraiment le jour de notre ouverture. Et donc, dès le lendemain, ils viennent présenter les deux premiers épisodes qui avaient été déjà tournés l'été dernier en avance. Et puis, Audrey Fleurot, cette fois-ci, prend le temps de faire une grande masterclass sur toute sa carrière, parce que c'est vraiment une icône de la télévision française. Et on a beaucoup à dire et à revoir en extrait sur sa carrière. Donc, je pense que ça démarrera très fort tout juste le premier jour après l'ouverture avec ça.
Frédéric, on peut s'attendre aussi à quelques surprises, à quelques invités surprises, comme il y en a un peu tous les ans, à l'image par exemple de notre Miss France qui pourrait faire une petite halte à Cérimania, puisqu'on rappelle que c'est quand même la Miss Nord-Pas-de-Calais.
Oui, on verra, mais c'est bien parti pour qu'elle soit présente sur le tapis rouge de l'ouverture, oui, tout à fait. C'est parti des surprises, mais il y a maintenant beaucoup de personnalités qui viennent aussi même assister aux séances, et on a maintenant un tapis rouge tous les soirs où on fait passer tous les invités du jour, mais aussi tous ceux qui viennent par curiosité et aussi parce qu'il y a beaucoup de rencontres professionnelles. Donc voilà, ça commence à être un endroit où beaucoup de gens se croisent.
Et on vous fera vivre ça, évidemment, à partir de vendredi, en direct sur nos réseaux sociaux. On vous fera vivre cette cérémonie d'ouverture, les tapis rouges, des photos chaque jour avec de nombreuses interviews, évidemment, qui nous attendront. Et puis une émission spéciale le lundi 25 mars de Chute, on écoute la télé spéciale Cérimania. Merci beaucoup, Frédéric, d'avoir terminé, en tout cas, cette émission avec nous. On va prendre la route d'ici quelques jours pour vous rejoindre, en tout cas du côté de Lille, à partir de vendredi. Merci beaucoup, à bientôt.
À bientôt, merci.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Là, allez, lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. Ça sera une spéciale karaoké. À cette occasion, Stéphane Benlassen, Claudia Tagbo et David Mora seront avec nous pour en parler. On va parler également du film Bis Repetita avec Louise Bourgoin et Xavier Lacaille. Et puis, on parlera également à nouveau de Mercato, la nouvelle série de TF1 avec Simon Astier qui sera notre invité.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arômes, sans colorants, sans conservateurs. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Partagez un moment convivial et chaleureux en écoutant Chute, on écoute la télé avec Iruac, votre marque de boucherie charcuterie basque qui fête ses 50 ans de savoir-faire avec ses recettes savoureuses et typiques du Pays Basque et du Sud-Ouest. Retrouvez vos produits Iruac dans vos grandes surfaces. Toutes les infos sur iruac.fr.